VOA Afrique.
Jacques Aristide dans la capitale américaine, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Gros plan sur la FIFA après une semaine agitée pour le gouvernement du football mondial.
Je vous remercie de votre attention.
Le patron a finalement jeté l'éponge. Joseph Blatter a pourtant tout juste réélu à la tête de la FIFA, a pris tout le monde de court en annonçant son départ, en plein scandale de corruption à l'échelle planétaire. Un pays africain est montré du doigt pour un paiement d'argent. Quel avenir pour la FIFA que les médias n'hésitent pas à qualifier de mafia. Décryptage.
Washington Forum.
Bienvenue et mille merci de votre fidélité à la VOA. Nos invités nous rejoindront dans environ 3 minutes. Mais pour l'heure, retour sur la folle semaine qui continue d'ébranler la planète football et qui a fait tomber l'homme fort de la FIFA. Le dernier développement en date, l'aveu de l'Américain Chuck Blazer. Cet ancien dirigeant de la FIFA a admis avoir touché des pots de vin du Maroc et de l'Afrique du Sud pour les mondiaux 98 et 2010. Flashback sur les autres rebondissements avec Michel Joseph.
Un retournement subit et inattendu. Nous sommes le mardi 2 juin.
Je remettrai mon mandat à disposition lors d'un congrès électif extraordinaire. Cette décision prendra effet le plus tôt possible, à savoir la date à laquelle un nouveau président pourra être choisi par le congrès de la FIFA pour me succéder.
Une annonce choc après une folle semaine qui commence mercredi 27 mai avec l'arrestation de 7 hauts responsables de la FIFA à Zurich. Ils sont soupçonnés d'avoir encaissé 150 millions de dollars depuis les années 90. Également en ligne de mire, l'attribution des mondiaux 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar. À New York, le département de la justice annonce l'inculpation pour corruption de 9 élus de la FIFA et de 5 partenaires de l'instance.
C'est une affaire qui suit son cours et ce sera donc par le canal des tribunaux que nous nous exprimerons.
À Miami, le FBI fait une perquisition au siège de la Confédération de football d'Amérique du Nord, Centrale et de la Caraïbe, la CONCACAF. À Moscou, le président Vladimir Poutine accuse Washington d'empêcher la réélection de Blatter, président depuis 1998. Vendredi 29 mai, Blatter est réélu après le retrait de son challenger, le prince Ali de Jordanie. L'occasion pour le patron de la FIFA de dénoncer la campagne de haine contre lui en visant l'UEFA de Michel Platini et les États-Unis. Dimanche 31 mai, l'Afrique du Sud reconnaît un versement de 10 millions de dollars avant son mondial 2010, mais...
Ce n'était pas un pot de vin, mais un paiement légal dûment alloué à un programme approuvé.
Lundi 1er juin, Londres propose un mondial alternatif. Lundi encore, le New York Times accuse Jerome Valky, le bras droit de Blatter, d'avoir transféré 10 millions de dollars sur des comptes gérés par l'ex-vice-président de l'instance, Jack Warner. Mercredi 3 juin, des médias américains rapportent que le FBI vise désormais le président démissionnaire de 79 ans, comme quoi la saga est loin d'être terminée.
Semaine agitée, effectivement. Merci, Michel. L'heure d'accueillir nos invités en direct de Paris. Hervé Kouamouo, journaliste sportif d'origine camerounaise, rédacteur en chef du mensuel Africa Foot. Avec moi sur ce plateau, l'analyste et écrivain ivoirien Gervé Niaka Lagoké, fin observateur du monde footballistique établi aux États-Unis. Également sur le plateau, l'homme de loi américain John Katz, avocat de défense criminelle et constitutionnelle. Je voudrais d'abord aborder les rapports entre Sepp Blatter et l'Afrique. Pour nombre de dirigeants, il a beaucoup fait pour le football africain. Il a d'abord la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, la toute première jamais organisée sur le continent. Blatter a également augmenté le nombre de sélections africaines en phase finale. Et il a notamment accru les programmes de développement, facilité la création de centres techniques et aidé à professionnaliser les ligues. Alors, Gervé, son départ est-il une perte pour l'Afrique ?
Bien sûr que c'est une perte pour l'Afrique, parce que, comme vous venez de le dire, d'abord, merci pour l'opportunité.
Je vous en prie.
Voilà. Ici, on est confronté, il y a deux positions. Il y a la vision européocentriste, il y a la vision eurocentrique du football, et puis il y a la vision universaliste, et puis la vision multipolaire défendue par Blatter. Les Européens estiment qu'ils ont un poids important dans le football mondial, donc ils veulent changer le mode de fonctionnement de la FIFA et le mode de sélection. Et Blatter, comme les élections ont pu le démontrer, en Asie, en Amérique latine, en Afrique, il est supporté parce qu'on le trouve comme le porte-voix des sans-voix.
Oui, beaucoup voici de la soutien. Réalité. Alors, mais Hervé, ce soutien de Blatter à l'Afrique était-il avant tout stratégique? Parce que 54 des 209 fédérations nationales que regroupe la FIFA sont africaines. Était-il donc question d'un retour de l'ascenseur pendant les prises de décision et les élections notamment?
Oui, je pense il y a aucun doute là-dessus qu'il y avait beaucoup de stratégie, parce qu'il ne faut pas oublier que Blatter est le successeur de João Avalanche, qui lui-même s'est imposé contre l'Europe, parce que, si mes souvenirs sont bons, en 1974, contre Sir Stanley Rouse, il va justement à la conquête du Nouveau Monde contre l'Europe que représentait Stanley Rouse. Et en 1998, quand Blatter est candidat, il est candidat face au président de l'UEFA, Leonard Johansson, qui est resté sur ce modèle, et lui, justement, va à la conquête des nouveaux de l'Afrique, effectivement 54 nations, et donc va, pendant toutes ces années, s'appuyer sur le reste du monde contre l'Europe, et donc en grande partie sur l'Afrique.
– Et dites-nous, le mondial sud-africain a-t-il été un élément clé de la chute de Blatter, Hervé ?
Ben, je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment le mondial sud-africain. C'est vrai que l'information sur les 10 millions de dollars qui ont été transférés via Jérôme Valky arrive le jour où il démissionne. Je pense qu'il y a eu effectivement beaucoup de choses, mais je pense que la crainte surtout de voir arriver son nom dans les affaires lui a fait prendre la décision de démissionner. Et surtout, l'animal politique qui reste maîtrise l'emploi du temps de sa succession, parce que là, c'est un délai très court. S'il avait fait un an ou deux ans de mandat, c'est quand ses rivaux auraient pu se préparer. Là, on est sur un mandat très court et il peut décider finalement d'être l'arbitre de celui qui prendra la place après lui.
D'accord, on verra et tout à l'heure, on reviendra sur le sujet. Maître Katz, pourquoi ce sont les États-Unis qui mènent l'enquête sur la FIFA ?
Évidemment, il y a des accusations, qu'il y a des Américains qui sont des accusés ou peut-être des accusés dans le futur. Et ça peut être bien cher d'avoir une prosecution dans plus qu'un pays. Maintenant, il y a des efforts par des États-Unis et le gouvernement suisse ensemble maintenant. Et il n'y a pas une raison pour le gouvernement des États-Unis d'avoir des tribunaux ou des jugements dans des deux pays, des États-Unis et la Suisse.
Évidemment, il y a la Confédération d'Amérique qui est notamment en ligne de mire, la CONCACAF, au cœur de l'enquête américaine. Mais qui sont donc les inculpés? Alors, il y a d'abord Jeffrey Webb, président de la CONCACAF. Ensuite, Jack Warner, un homme politique de Trinidad et Tobago, ancien président de la CONCACAF. Également inculpé Nicolas Léoz, ancien président de la Confédération sud-américaine. Edouard Lee, membre des comités exécutifs de la FIFA et de la CONCACAF. Julio Rocha, chargé du développement à la FIFA. Costas Takas, attaché au cabinet du président de la CONCACAF. Eugenio Figueiredo, actuel vice-président de la FIFA. Et Rafael Esquivel, membre du comité exécutif de la CONMEBOL, la Confédération sud-américaine de football, et José Maria Marin, membre du comité d'organisation de la FIFA pour les Jeux Olympiques. Très rapidement, Maître Katz, quelles sont les peines qu'encourent ces personnes s'ils sont reconnus coupables?
Évidemment, il y a quelques accusations contre chaque accusé, avec une pénalty possible de jusqu'à 5 ans en prison pour chaque accusation. Aussi, il y a la possibilité qu'il y aura plus des accusations contre chaque accusé et qu'il y aura plus accusés dans le futur.
Oui. Il y a le New York Times qui rapporte que les autorités américaines espèrent obtenir la coopération de certains de ces inculpés pour resserrer les taux autour de Blatter. Est-il donc dans le viseur du FBI?
Vous avez posé une question, deux questions à Cuomo et puis à John. Allez-y. Donc je voudrais répondre à ça rapidement.
Allez-y, certainement.
Blatter, aujourd'hui, d'abord, je suis contre la corruption. La FIFA a fonctionné comme une mafia, comme une famille. Ça, c'est connu. C'est une tradition et une culture de corruption bien avant Blatter, avec Blatter, et certainement ça va continuer avec, après Blatter. Aujourd'hui, Blatter a des difficultés simplement parce que, un, l'Angleterre n'a pas eu la Coupe du Monde de 2018, battue par la Russie. Deux, l'Amérique n'a pas eu la Coupe du Monde de 2022, battue par le Qatar. De trois, il y a eu des rumeurs que la Coupe du Monde pouvait atterrir en Chine pour 2026. Et donc, Alfredo Relaño, du journal AS, en Espagne, c'est lui qui a expliqué clairement que l'Amérique ne veut pas une Coupe du Monde pour Vladimir Poutine dans cette période historique. Voici le fond du débat.
Mais Gervais, s'il savait que le système était déjà pourri avant son arrivée, il aurait pu mettre de l'ordre dans tout ça.
Je suis d'accord avec vous. Justement, c'est la même question qu'on dirait des différents présidents américains, dont Obama, qui n'ont pas pu régler le problème du lobby qui existe, qui empoisonne la politique ici aux États-Unis, ou encore ces sénateurs et ces congressmen qui sont ici pendant plus de 50 ans, qui sont au Congrès et qui imposent la limitation des mandats au président américain. Donc voici, il y a tellement de choses qui peuvent être faites, et je suis d'accord que Blatter aurait pu faire ça.
Il y a des gens qui disent que ce sont finalement les États-Unis qui ont fini par avoir sa tête. Êtes-vous d'accord et que maintenant,
je suis d'accord.
Le FBI...
je suis d'accord que... parce que en fait, deux jours avant les élections, on fait un coup de filet, Blatter gagne les élections. Le jour des élections, on attend... il y a une fausse alerte à la bombe, et après... Donc le contrat, la démission.
Sauf que là, voilà. Je dois dire qu'il y a eu une déclaration officielle du Département d'État qui a démenti ces allégations que les États-Unis ont eu la tête de Blatter, que c'est les États-Unis qui ont poussé Blatter à la démission. C'est la déclaration, c'est la position
politique.
Officielle du Département d'État. Alors même l'ex-patron de la FIFA, Roy Avalanche, comme vous l'avez dit, commence à être visé avec Jack Warner qui a promis une avalanche de révélations. Est-ce que est-ce que c'est pour atteindre Blatter, éventuellement?
Souvent, il y a des accusés qui veulent parler avec des autorités pour essayer de réduire la possibilité d'avoir beaucoup des années en prison. Mm-hmm. Évidemment, des prosecuteurs, le gouvernement veut avoir Blatter en prison.
Alors, le FBI qui enquête également sur l'attribution des mondiaux 2018 à la Russie et 2022 au Qatar, Moscou comme Doha ont nié avoir commis des actes illégaux. Mais Gervais, vu l'étendue du scandale, faut-il leur retirer ces coupes du monde à venir?
Mais ce serait vraiment...
je voulais poser la question à Hervé plutôt. Hervé, allez-y.
Non, je pense que effectivement il y a tout un scandale et ça déclenche beaucoup de passion. Mais je trouverais que ce serait vraiment dommage de retirer des compétitions qui ont déjà été données, ouais. Même si elles ont été mal données. Il faut plutôt travailler sur le futur, savoir comment ça va, comment s'organiser pour que le soupçon ne pèse plus sur les prochaines décisions. Mais pour déjà 2018, c'est trop juste pour organiser une Coupe du Monde en 2 ans et demi. Et puis pour 2022, bon, des contrats ont déjà été passés, les travaux ont déjà été commencés. Je pense que ce serait pas une bonne chose que de revenir sur ces mondiaux qui ont déjà été accordés.
Mais la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle serait prête éventuellement d'accueillir le mondial, le prochain. Éventuellement, il fallait ôter cela du Qatar.
Et comme Hervé l'a dit... Vas-y Hervé.
Allez-y Hervé.
Oui, je dirais que ce serait une mauvaise image même pour la compétition de donner le sentiment qu'en 2 ans, on peut se préparer à accueillir une Coupe du Monde. Ouais. C'est vrai que la Coupe du Monde a été, une seule fois, ça a été fait en 86, mais ce n'était pas déjà le gros événement que c'est aujourd'hui. Franchement, pour moi, 2 ans et demi avant une compétition telle que la Coupe du Monde, c'est trop tard. Maintenant, c'est vrai que les Anglais espèrent, mais je pense que c'est une façon aussi de se positionner pour 2026 et 2030.
Oui. Alors, très rapidement, maître, quelle lecture faites-vous de l'aveu de Chuck Blazer?
Pour tous les accusés, ça c'est bien difficile parce que le cas, ça c'est dans la Cour fédérale et des procureurs fédéraux sont excellents et il y a beaucoup de risques d'aller en prison pour longtemps. Et il faut pour tous les accusés à tenir des bons avocats.
Gervais?
Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai lu hier dans un journal français Le Monde que la Coupe du Monde de 1998 qui avait été attribuée à la France, la Coupe du Monde de 2006 attribuée à l'Allemagne, il y a des révélations selon lesquelles il y a eu également des pots de vin. Donc si on veut enquêter, on va même aller aussi enquêter l'octroi de la Coupe du Monde aux États-Unis en 1994 et on va chercher à comprendre pourquoi, au moment où la FIFA voulait promouvoir le football, le 4 juillet 1994, c'est le Brésil et les États-Unis qui ont joué. C'était comme une opportunité pour pouvoir promouvoir le football. Donc il y a eu beaucoup de choses qui sont faites naturellement pour promouvoir le football. Et au-delà de la corruption, il faut savoir que c'est les intérêts géostratégiques des États-Unis qui sont mis en jeu actuellement dans ce scandale.
Débat très intéressant, messieurs, je vous prie de rester avec nous. Dans un instant, nos invités se pencheront sur l'avenir de la FIFA. Nous entendrons également les commentaires à Facebook, de même que les réactions des Africains de Washington. Nous vous retrouvons après cette pause. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum, plein feu sur la FIFA. Sans plus tarder, les points de vue de nos Facebookers. Je commence par Ternodio Ba de Conakry, Guinée. Merci Blatter. Si Platini devient président de la FIFA, le football est mort. Voilà, une déclaration sans embâge. Vincent Sikatenda de Bukavu, RDC. Le continent n'a pas soutenu Blatter pour sa réélection. C'est plutôt Issa Hayatou qui l'a fait. De notre côté, nous voulons que la justice soit faite. Alors là, il faut dire que Issa Hayatou, il est, vous le savez, le président de la Confédération africaine de football, la CAF. Abdoulaye Zalé de Ouagadougou, Burkina Faso. Nous nous sommes réjouis de voir la Coupe du Monde se dérouler en Afrique, mais ce n'est pas pour autant qu'on serait complice de la corruption. Blatter a eu le courage de démissionner, que Hayatou fasse autant. Et Hassan Mahamad Kadré de Massénia, Tchad. Joseph Blatter a contribué au développement du foot en Afrique avec ses projets Goal. Sa démission ne vient pas à un bon moment. Et voilà, nous le voyons, des sentiments plutôt mitigés exprimés sur la page Facebook de VOA Afrique. Et d'ailleurs, vous pouvez aller sur cette page pour continuer le débat. Et maintenant, qu'en pensent les membres de la diaspora africaine de Washington? Eh bien, Roger Muntou leur a tendu son micro. Salut Roger.
Salut Jacques. Oui, comme d'habitude, nous avons sillonné la région de Washington pour recueillir les réactions de membres de la diaspora. Pour certains, le scandale a terni l'image de l'institution. D'autres ont la nostalgie de l'époque où l'argent, Jacques, n'avait rien à voir avec le football.
Quand nous avons commencé à jouer au football, quand on était tout petit, c'était tout simplement de la passion, c'était un sport, la compétition. Mais aujourd'hui, c'est affaire des gros sous. Et donc, ce qui se passe dans la FIFA aujourd'hui n'est pas une grande surprise. Mais ce qui est une grande surprise, en fait, c'est l'accélération des choses.
L'accélération des choses, comme ce coup de tonnerre de la démission du président de la FIFA. Le Camerounais Dr Samuel Dogmo vient souvent au Babylon Café en Virginie, un coin de rencontre des amoureux du ballon rond après ses entraînements.
Il est clair qu'avec ce qui s'est passé ces jours derniers et cet épilogue aujourd'hui avec la démission du président Sepp Blatter de la FIFA, naturellement les choses devront changer parce que déjà il faudra un nouveau président. Et ce nouveau président viendra certainement avec une nouvelle stratégie. Et il est clair que le mot d'ordre de sa stratégie, ce sera « clean up cette corruption-là ».
Julio Tati habite dans l'état du New Jersey. Ce footballeur est aussi entraîneur dans un club de la région. D'après lui, l'implication présumée du président de la Confédération africaine de football, CAF, le Camerounais Issa Hayatou, dans le scandale de corruption, concerne tous les Africains.
S'il fallait entendre des trucs de corruption, ça devait se passer ailleurs, pas dans le football, pas au sein du football. Donc je me dis que c'est une honte de savoir qu'on a des dirigeants africains qui sont impliqués. Tu vois, déjà, c'est pas très bon pour la réputation des joueurs africains, des étrangers comme moi.
Il a toujours rendu les Camerounais très fiers. Savoir qu'on a un fils du Cameroun qui occupe cette position, on a toujours été très fiers. Mais quand on entend en même temps qu'il est d'une certaine façon inquiété, c'est vrai que pour l'instant il n'est pas inculpé, on est tout de même inquiet. On est inquiet et on espère qu'il n'a rien à se reprocher. Mais c'est quand même étonnant de savoir que des gens à qui nous avons fait totalement confiance, nous les amateurs de football, on est surpris de savoir qu'il se passe des mallettes de gros sous. Au lieu de se passer des ballons, des trucs, on a besoin d'équipements en Afrique pour les jeunes. On a besoin des stades de football pour la jeunesse. On n'a pas besoin des grosses mallettes qui se passent dans les bureaux entre dirigeants.
Mon rôle en tant que joueur, c'est de jouer. C'est pas de me mêler des histoires politiques, parce qu'en fait, je me dis, c'est une histoire politique, ça. Mon rôle en tant que joueur, c'est de faire mon travail sur le terrain. Et je crois que plusieurs pros, Samuel Etofis, Didier Drogba et autres, je crois qu'ils feront pareil.
L'Afrique éclaboussée par le scandale de la FIFA d'après Julio, mais il garde espoir que tout ira pour le mieux.
Voilà Jacques, pendant que les révélations se succèdent, Julio et Dr Dogmo espèrent que cela n'affectera pas le football africain. Jacques.
Merci bien Roger, cravate ô combien appropriée.
Merci.
Et voilà, nous allons maintenant retrouver nos invités depuis Paris, le journaliste sportif Hervé Kouamouo du magazine Africa Foot, à Washington l'analyste Gervais Niaka Lagoké, de même que l'avocat américain John Katz. Alors la Fédération internationale de football, l'association, la FIFA, a été fondée en 1904, donc vieille de 111 ans, ayant pour vocation de gérer et de développer le sport roi dans le monde. L'ironie dans toute l'histoire est que la FIFA est à but non lucratif, mais qu'elle a boussé, vous l'avez entendu, depuis pas mal d'années par des affaires d'argent. Alors Hervé, la FIFA va-t-elle pouvoir redorer son blason ?
Mais en fait, après, tout dépend de l'élection qui aura lieu dans quelques mois. Je pense que toutes les organisations internationales peuvent connaître des moments difficiles. Le CIO en a connu juste avant l'arrivée de Jacques Rogge et finalement, aujourd'hui, a une image bien meilleure qu'il y a une quinzaine d'années. Donc, en fait, tout dépendra vraiment de la succession de Blatter. Bon, avec les arrestations faites par les arrestations et puis les poursuites faites par les autorités américaines, il y aura forcément un grand balayage. Après, est-ce que ce sera une évolution, une révolution ? Tout dépendra du mot du R qui fera la différence. Si c'est une révolution, la FIFA retrouvera son standing et son image.
Ouais, il faut dire que l'élection du futur président de la FIFA aura lieu entre décembre 2015 et mars 2016. Les prétendants se bousculent évidemment déjà au portillon. Le New York Times a publié les noms des candidats potentiels. Alors, il y a le prince jordanien Ali bin Al-Hussein, évidemment. Le français Michel Platini, le britannique David Gill, l'américain Sunil Gulati, chance pratiquement nulle toutefois d'après le journal, le portugais Luis Figo et la burundaise Lydia Sequeira, la première femme à faire partie du comité exécutif de la FIFA. Gervais, alors pour vous, qui pourrait être la personne idéale pour réformer et mener la FIFA à bon port ? Et si c'était Lydia ?
En fait, déjà, je ne connais pas ses compétences, mais je pense que si c'était Michel Platini, mais ce serait vraiment une grosse déception parce que son nom est impliqué dans l'octroi de la Coupe du Monde du Qatar. Il n'est pas non plus aussi propre qu'on veut le faire croire. Et je souhaiterais que ce soit quelqu'un qui soit en dehors de ceux qu'on connaît, et puis un mec qui connaît bien le football et qui a un profil d'intégrité. Et voilà ce que je souhaiterais.
Maître Katz, les procédures en cours risquent-elles d'avoir de peser lourd sur l'avenir de la FIFA ?
Il y a beaucoup de risques dans le cours pour tous les accusés et FIFA a des problèmes aussi avec sa compétence.
Alors, d'ici l'arrivée d'un nouveau président, c'est Blatter qui est à la tête. Blatter qui se dit libre de toute contrainte, donc en mesure d'apporter de profondes réformes. Hervé, est-ce trop ambitieux de la part de Blatter ?
Bah, disons qu'aujourd'hui, il joue son barreau d'honneur. Est-ce qu'il a envie réellement de changer les choses ou de rester sur une posture politicienne? Les mois à venir nous le diront. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je pense qu'il a, là où il était très fort, c'est que c'est lui qui maîtrise l'agenda finalement. Je pense que l'une des choses, parce qu'il avait dit qu'il pardonne mais qu'il n'oublie jamais. Donc en fait, je pense que l'un de ses problèmes, c'est Michel Platini, comme Gervais l'a dit, pour moi, je pense plutôt que d'être... plutôt que de se voir comme un futur successeur, je pense que Blatter le voit surtout comme un rival. Et je pense que l'Afrique a peur de Platini parce que Platini est pour le coup très européen centré. Et donc en fait, est-ce que Blatter va aller au-delà de ses ambitions personnelles, au-delà de la succession qu'il veut maîtriser? Est-ce qu'il va vraiment réformer en profondeur une maison dans laquelle il est depuis 40 ans? Ça m'étonnerait. C'est un système qui a été créé, auquel a fait partie parce qu'il est arrivé quasiment en même temps qu'Avalanche. Il a été secrétaire général pendant plusieurs années, puis président. Ce sera difficile, à mon sens, que ce soit lui qui impulse ce changement.
Merci Hervé, mais je pense qu'il y a la possibilité que Blatter puisse effectivement faire le changement parce qu'il veut rentrer dans l'histoire. Mais, et c'est là qu'on comprend la pression que les Américains sont en train de mettre sur lui. Oui. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir contrôler le processus de sélection, le processus de changement qui va se faire. C'est ça le sens
des... Et l'un des grands chantiers, c'est la réforme du comité exécutif de la FIFA. Pourquoi il n'a pas pu le faire jusqu'à maintenant?
Non, je n'ai pas eu le privilège de le rencontrer, donc je ne vais pas répondre à cette question. Mais ce que je peux dire, c'est que... Il est possible, il a dit qu'il faut même qu'il y ait une limitation des mandats des membres du comité exécutif de la FIFA. Je pense que si cela est fait, c'est une très bonne chose. Il y aura certainement de grands changements, mais l'élément essentiel qu'il ne faut pas oublier, parce que nous sommes en train de parler de géopolitique, la pression judiciaire sur lui que l'Amérique est en train de mener actuellement, c'est en fait pour pouvoir contrôler le processus de transition afin que l'Amérique puisse avoir ses intérêts sauvegardés ou préservés dans ce qui va se passer après décembre 2015.
Et là, je reviens à cette déclaration du département d'État qui a dit qu'eux, ils n'ont rien à faire avec qui c'est qui occupe ou qui va occuper la présidence de la FIFA.
Personne ne croit ça.
Bon, ça, c'est votre opinion. Et moi, je vous dis ce que le département d'État a déclaré. Alors, êtes-vous confiant, Hervé, peut-être, vous parliez en fait tout à l'heure de cela, peut-être un éventuel grand ménage à la FIFA. Alors, vous pensez que cela pourra éventuellement permettra de retrouver sa crédibilité, la FIFA?
Disons que je pense, la FIFA a tout intérêt à retrouver une crédibilité et c'est pour ça que je dis que le rôle de Blatter sera fondamental dans les mois qui vont suivre. Parce que contrairement à ce que pense Gervais, Blatter, dans ses attitudes, dans ses propos, ne compte pas changer les choses puisque quand on parle de la limitation au comité exécutif qui est quand même le mode de gouvernance donc de l'institution, donc il faut forcément qu'il détermine les enjeux des 4 années à venir. Il atteint l'année prochaine la limite d'âge au CIO, et il a toujours dit qu'il trouvait que c'était discriminant de sélectionner par l'âge ou par la durée de mandat. Donc je ne pense pas que ce sera lui qui va le changer. Par contre, le football reste le sport le plus populaire, le sport le plus international, parce qu'en dehors du football, aucun sport ne touche à ce point tous les continents. Et donc, effectivement, ça restera toujours un sport pratiqué par beaucoup de jeunes et qui amènera beaucoup de passion.
Très rapidement, très rapidement, Maître Casse, vous avez entendu les accusations contre les États-Unis, montrées du doigt. Vous, en tant qu'Américain, c'est ce que vous appelez ici le soccer. Et est-ce que les accusations sont légitimes très rapidement?
Aux États-Unis, il y a une présomption qu'on est innocent jusqu'à ce qu'il y ait l'évidence sans doute raisonnable qu'on est coupable. Maintenant, il y a la présomption de l'innocence.
Et c'est cette note que nous allons terminer. Merci à nos invités, le journaliste Hervé Kouamouo du magazine Africa Foot, l'analyste Gervais Niaka Lagoké et l'avocat John Katz. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.